son numéro 41 de février 2013 d'un revue Communication et Influence, reproduit un article de Alain Juillet et de Bruno Accoucheau sur les stratégies d'influence sur la liberté de l'esprit face à la pensée convenue déplorant le règne de la pensée unique, révélateur d'un malaise profond de la société française, à même de modifier en profondeur son modèle démocratique. Les deux auteurs proposent d'y remédier en développant ce qu'ils nomment une stratégie d'influence, laquelle, reposant sur le libre jeu des idées, réhabiliterait le savoir et devrait amener à se poser des questions, donc à réfléchir et donner du sens. Malgré la lucidité de leur inventaire et la bonne volonté de leur démarche, deux points auxquels le sens commun ne peut qu'adhérer, les auteurs manquent d'autant plus leur objectif que les fondements de leur réflexion sont biaisés dès l'origine, et ce, pour les raisons que nous allons maintenant exposer. L'intention est louable, le procédé nettement moins. Si nous ne pouvons qu'acquiescer au sombre constat dressé par Alain Juillet et Bruno Accoucheau sur les méfaits de la pensée unique dans notre pays, nous ne pouvons en revanche partager avec eux leur incrimination d'une théologie laïque à tendance sectaire, oxymore explicatif particulièrement réducteur et projectif de leur propre idéologie, au risque d'entacher une énumération parlante de faits explicites sur laquelle ils auraient plus facilement étayé leur démonstration. Un exemple parmi d'autres, l'approche comparative en Europe du concept de populisme et sa dévalorisation spécifique, voire sa dénégation par la pensée unique en France, mériterait une élaboration approfondie. Nous le savons, le déni intransigeant de la seconde renforce le radicalisme vindicatif du premier. Contrairement à l'étonnement affiché des auteurs, il n'y a pas de paradoxe à observer une conjonction entre le phénomène de la pensée unique et celui de la mondialisation la plus débridée. Là encore, la raison d'être de la première réside dans l'hubris de la seconde, réaction identitaire, instinctuelle et défensive d'individus rassemblés en agrégats isolés, pour reprendre un terme de Winnicott. Le monde, comme le prétendent Alain Juillet et Bruno Accoucheau, n'est même plus multipolaire, au sens où des polarités subsistantes pourraient à tout le moins servir de borne d'arrimage au désespoir humain. Le monde est éclaté, atomisé, et son appréhension tout autant parcellaire, jusque dans le ridiculement petit. Internet a fait de la planète un immense village et les adolescents collent leur smartphone à leurs oreilles jusque dans leur lit. D'où ce mimétisme des uns envers les autres et cette représentation de la pensée de l'un par l'ensemble du groupe regrettée par les auteurs, une simple mesure, hélas, d'une sauvegarde psychique fictive. Comment ne pourrions-nous pas, dans cette même perspective, relever le thème du confort socialement apaisant brandi contre la perturbante étrangeté du sujet désirant, celui de la psychanalyse, dont les partisans de la pensée unique tentent de remplacer subrepticement les déterminants pulsionnels par une théorie de la motivation, l'inconscient par des circuits neuronaux et le surmoi par la pression sociale. Nous inverserons même l'un des arguments avancés par les deux spécialistes, le principe de précaution, dont l'injonction incantatoire paralyse, selon eux, les ressorts rédempteurs de l'individualité, doit être retourné en son contraire. Il est le symptôme, le révélateur de tous les maux d'une société qui s'évertue à protéger l'humain contre lui-même et contre son essence singulière de mortel. À force d'entendre sa mère agiter la peur de sa chute, l'enfant finit par tomber. Venons-en maintenant à leur proposition de mettre en place une stratégie d'influence comme réponse aux six bémols dans des temps durs, ainsi que l'énonce éditorial de la revue. Bien qu'ils s'en défendent en le citant incidemment, Alain Juillet et Bruno Accoucheau s'inspirent très largement de Propaganda. L'ouvrage d'Edouard Bernays, l'inventeur de l'industrie des relations publiées, accessoirement le double neveu de Sigmund Freud, publié aux États-Unis en 1928. Un livre sans doute nourri des réflexions de son contemporain Walter Lippmann, spécialiste de la fabrication du consentement et dont les thèses seront étudiées par Noam Chomsky dans un livre co-signé avec Edouard Herrmann en 1988. L'influence et le recours idoine face à la pensée unique, expliquent les auteurs de Communication et Influence, dénonçant au passage la mainmise d'une caste de sachants à l'origine d'un corpus qui prétend interpréter le réel tout en s'en trouvant déconnecté. Un décalque du concept de gouvernement invisible qui tire les ficelles évoqué par Bernays dans son introduction et dont la régression infinie d'explications sur les élites au pouvoir n'aurait sans doute pas déplu à l'universitaire américain Robert Dahl. Ils ajoutent: l'influence peut ainsi amener des personnes censées, les auteurs commettent d'ailleurs un lapsus calami dans leur texte en écrivant censé avec un S, à prendre des décisions conformes à leurs intérêts. Edouard Bernays ne dit pas autre chose lorsqu'il parle de la manipulation intelligente des opinions et des habitudes, organisée des masses dans la société démocratique et à même de porter l'idée à la conscience du grand public. Tout comme Bernays se refusera à apporter ses services à un client Saint-Martin, ouvrage décortiqué et finalement commenté par son oncle viennois la même année dans sa psychologie des fous et analyse du moi. Rappelons-en les grandes lignes. L'individu en fou se caractérise par l'évanouissement de sa personnalité consciente, la prédominance de la personnalité inconsciente, l'orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans le même sens. Dans Propaganda et en particulier dans le chapitre intitulé La psychologie des relations publiques, Bernays reprend à son compte et pour son plus grand profit toutes ses réflexions. L'étude systématique de la psychologie des foules a mis au jour le potentiel qu'offre au gouvernement invisible de la société la manipulation du mobile qui guide l'action humaine dans un groupe. Pour Édouard Bernays, le prétexte de son intervention s'appuie sur une évidence, l'impossibilité pour chaque citoyen d'étudier par lui-même l'ensemble des informations abstraites d'ordre économique, politique, morale en jeu dans le moindre sujet. Citoyen dont le choix final se réduira aux idées et objets portés à son attention par la propagande de toutes sortes. En témoignent aujourd'hui encore les multiples rouages psychologiques sous-jacents de l'hyperconsommation fondés simultanément sur la loi du désir adapté à l'achat, la curiosité maintenue en éveil pour la nouveauté, sorte de priapisme consumériste, sur l'amplification des carences identitaires, l'objet offre une série de satisfactions émotionnelles qui vont au-delà de ses fonctionnalités techniques et sur une manœuvre de désynchronisation spatio-temporelle où le marketing sensoriel vise, au sens psychiatrique du terme, à dépersonnaliser et à déréaliser le consommateur. En ce sens, la foule est la négation même de toutes les vertus de l'individu, de toutes les qualités intrinsèques du sujet. Que la masse ne soit pas en mesure de transformer une société, elle le fait en général en accomplissant des actions d'éclat sous l'empire de la rage comme moteur de la civilisation occidentale, ainsi que l'a subtilement démontré le philosophe allemand Peter Sloterdijk. À la juillet, Bruno Racouchot mentionne les racines antiques et nobles de l'influence pour mieux tenter de nous convaincre qu'elle aidera chacun à affirmer son être propre. Il se met toutefois de rappeler que Socrate a été justement condamné par la cité, en raison même de sa volonté et de sa capacité à promouvoir l'intériorité réfléchissante et le dialogue intime avec soi, autrement dit, l'autonomie et l'indépendance du sujet pensant et parlant, hors de toute emprise, de tout attachement à une école philosophique. Il pèse en outre l'une des premières allusions au moi chez Sénèque, pour lequel seul l'homme libre, libre de ses passions, selon le philosophe sénateur, était apte à la conduite des affaires politiques. Il en oublie subséquemment de s'appeler à une conscience, cause de servir de la raison, ou l'obsession de Voltaire d'offrir à la raison humaine des exigences d'explication. Autant de notions antipodes des priorités intéressées de Bernays sur la nature grégaire de l'homme, les foules rappellent d'ailleurs que ces Freud n'ont jamais connu la soif de vérité. Elles demandent des illusions auxquelles elles ne peuvent pas renoncer et de préciser les grandes créations de la pensée, les découvertes capitales et les solutions décisives de graves problèmes ne peuvent résulter que du travail individuel accompli dans la solitude et le recueillement. Il ajoute, dans la foule, le sentiment individuel et l'acte intellectuel personnel sont trop faibles pour s'affirmer d'une manière autonome. Une stratégie collective d'influence susceptible de recréer un espace destiné à libérer la pensée individuelle est donc une totale aporie, une contradiction par surcroît, illusoire et dangereuse. Nous savons que Bernays eut pour ambition de justifier ses interventions par une argumentation oscillant entre une inévitabilité de cette procédure pour des raisons pratiques et une éthique où la propagande se fait instrument organisé de chaos et où elle devient l'auxiliaire des responsables politiques. Nous pensons aux travaux modernes des sociologues Pierre Bienbaum et Daniel Gaxi sur la difficulté des électeurs à maîtriser les chaînes politiques dans le processus de sélection d'un candidat lors d'un scrutin présidentiel. Toute stratégie d'influence collective distille impérativement des attachements affectifs, fonds de commerce de l'âme collective d'une foule. Cette force quelconque, écrit Freud, qui permet à cette dernière de garder sa consistance. Nous savons ce qu'il en advient pour la religion comme pour l'armée, les deux paradigmes choisis pour la démonstration freudienne. Nous en fournirons deux brèves illustrations plus contemporaines pour notre conclusion. La première provient d'une étude intitulée « La poussée islamiste dans les entreprises françaises » réalisée par Éric Delessé et parue dans « Sécurité globale » de la revue Choiseul à l'hiver 2010-2011. Au-delà de la seule question de l'islamisme, elle exemplifie une stratégie d'influence en deux temps, un processus à portée universelle visant à détacher l'individu de son environnement ce qui arriva au couvre-boucle, venu apporter la bonne nouvelle, sème une lumière libératrice des consciences à ses pairs, lesquels ne voulurent rien entendre. Plus de deux millénaires après, loin d'être synonyme de rébellion, le cannabis fumé par plus d'un adolescent sur deux depuis 2003, traduit, selon le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies dans son rapport de l'Église, une forme de suradaptation à la société actuelle. L'individu seul se sent incomplet, écrit Freud. Le second exemple sur l'incapacité d'une stratégie d'influence à garantir la liberté de l'individu sera encore plus lapidaire. Goebbels ne s'est-il pas vanté auprès d'un journaliste américain d'avoir exploité les ressources idéologiques de Crystallizing the